Alors les amis, on revient donc dans notre étude cette fois de Parashat HaShavua et ça y est, nous sommes arrivés dans la Parashat de Vayishlach.
Alors, qu'est-ce qu'il envoie ?
Alors, Vayishlach Yaakov Malachim Lefanav Elesav Achiv Arza Seir Sede Edom. Yaakov envoie des envoyés à Esav. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? La première question tout à l'heure, quand on a parlé dans notre cours du Rav Kook, de Horot, alors j'ai expliqué que quand on ne connaît pas l'histoire, on a du mal à appréhender les événements et de comprendre ce que les rabbins ils nous veulent. Mais il y a un autre truc qu'il faut appréhender aussi, si on veut comprendre la Torah, c'est la géographie. Yaakov arrive par le nord. Il revient de Haran. Esav, lui, il habite au sud. Be'ar Seir, c'est à côté de Petra.
Ah, d'accord.
Donc, Yaakov, il veut arriver où ? Il veut arriver chez Papa Yitzhak. Il veut arriver à Hebron, mais il ne veut pas descendre jusqu'au sud. Donc, a priori, il n'est pas censé rencontrer ça.
Ben oui.
Okay,
c'est pas le chemin.
D'accord.
Donc, pourquoi réouvrir les plaies anciennes et envoyer des émissaires à Esav.
Esav ayant reçu le WhatsApp que Yaakov a quitté la vanne,
ah.
Il est en chemin.
Donc tu dis, Esav, il a reçu un WhatsApp. D'où on sait ?
Ben, il est venu à son rencontre.
Ben, on voit que les envoyés lui disent, eh, oui, mais ça, il ne le sait pas. Yaakov, lui, il ne le sait pas. Puisque Yaakov, il envoie son émissaire, a priori jusqu'à Seir. Il se trouve qu'il revient plus tôt et qu'il lui dit il est déjà là, il est déjà en chemin. Mais donc Yaakov, il ne le sait pas, ça. Donc pourquoi Yaakov, il envoie quelqu'un ? Eh bien, tout simplement parce que Yaakov se doit de demander la permission à Esav de reprendre sa place. Il faut bien comprendre que Yaakov a quitté la scène des décisions sous l'ordre de ses parents, mais il a accepté de quitter. Et qui a géré le monde en son absence ?
C'est ça.
C'est ça. Maintenant, tu veux reprendre ta place. Ah, Todaraba. La moindre des choses, c'est de demander la permission. Au moins de prévenir. Ainsi donc, Yaakov envoie des envoyés chez Esav. Et ça ne sera pas la seule fois que ça va arriver. À chaque fois que Am Israël veut sortir d'exil, il va devoir envoyer des gens prévenir les nations, leur demander la permission. Donc on va sortir d'Égypte, il faudra la permission de Pharaon. Et une fois qu'on sera aux portes d'Israël, Moshe enverra des Malachim El Melech Edom, le descendant de Esav, pour dire on arrive. Lorsqu'on sort de l'exil de Perse, il faudra attendre la permission de Koresh, le roi de Perse. Et lorsqu'on le sortira de l'exil de Rome, il aura fallu attendre la permission des Anglais, de la SDN, déclaration Balfour, et après le vote de l'ONU.
Quoi, Edom, c'est les Turcs.
Edom, c'est pas les Turcs.
Non, il faudra demander la permission de. Je sais pas.
Quel rapport Edom ?
J'ai perdu le fil.
Je dis que quand on va sortir d'Égypte,
oui.
On va demander la permission à Pharaon.
D'accord.
Mais juste avant de rentrer en Israël, Moshe d'accord. Envoie des émissaires au roi de Edom.
D'accord.
Edom, c'est le descendant de Esav.
D'accord.
Ok, donc c'est pour faire la correction. Maintenant, quand on était en exil à Babylone, on a demandé la permission, plus à Babylone parce que c'était maintenant la Perse, mais au roi de Perse.
D'accord.
Et dans notre génération, il a fallu demander la permission à l'Angleterre, à la SDN et à l'ONU pour pouvoir reprendre possession de la terre d'Israël, revenir à la maison.
D'accord.
La question, c'est est-ce que ça veut dire qu'à chaque pas qu'on va faire en Israël, il faut demander la permission au monde ?
Non, c'est quand on revient.
C'est quand on revient, une fois qu'ils nous ont dit c'est bon, ah ben y a là, on revient. C'est-à-dire ? Donc on voit ici que Yaakov est un précurseur. Il comprend qu'ayant quitté la scène internationale, s'il veut y revenir, il doit prévenir.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Oui.
C'est que, à Kaloukou, dans le rêve qu'il fait, il lui donne toutes les assurances qui existent dans le monde.
Oui.
Ou Shmartira,
tout à fait.
Dalet, etc.
Tout à fait.
Et quand il est chez la vanne, Kadosh Baruch Hu, il lui fait signe.
Que c'est le moment de partir.
C'est le moment de partir.
Nahot, tu as raison encore une fois.
Donc, à mon avis, il n'a pas besoin dans le corps de Hassan, puisque Kadosh Baruch Hu, il est là pour le protéger et qu'il lui demande même de revenir.
Il a fait une très bonne question. Si Dieu il lui dit de revenir, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'accord de Hassan ? Dis-moi, est-ce que tu as entendu parler de Betsalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda?
Oui, j'ai entendu parler.
C'est celui qui a été choisi pour construire le Mishkan.
C'est le fils de comment ça s'appelle?
Il est le petit-fils de Myriam.
De Myriam.
Petit-fils.
Le petit-fils.
Parce qu'il est le Betsalel ben Uri
ben
Hur. Ok, Uri, Hur. Voilà. Non, Hur, c'était le mari de Myriam.
Ouais.
Donc, Uri.
Ouais, d'accord.
Ok. Maintenant, deux secondes. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, prends Betsalel. Et il lui demande, qu'est-ce que t'en penses? Moshe, il répond dans le Midrash, si toi, tu penses que Betsalel, il est bien, pourquoi tu veux que moi, je... Bechol zot, dis-moi ce que t'en penses. Et après, tu iras le proposer au Bnei Israël. Et Bnei Israël, il répond, Moshe, si toi, il te convient et qu'il convient à Dieu, évidemment, Bechol zot. C'est-à-dire, même si Dieu il a dit à Yaakov, c'est le moment, il faut ramener ça Baola Mazé. Mais Baola Mazé, celui qui gère pour l'instant, c'est ça. De la même façon que si Dieu il a choisi Betsalel, c'est sûr qu'il est bien Betsalel. Mais il faut que celui qui est le dirigeant du peuple juif, il l'accepte. Donc Moshe. Eh bien pareil, même si Dieu nous a dit c'est le moment de repartir, à Kol Besader, il n'empêche que Baola Mazé, tu ne peux pas faire les choses sans te préoccuper de ce qui se passe dans ce monde.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période qu'on est en train de vivre maintenant, le rassemblement des exilés? C'est pareil, quand le Roi nous a prévenu qu'un jour, il y aura le rassemblement des exilés.
Des exilés.
Bon, ce moment, il est arrivé.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre la permission des nations pour rentrer, ou on doit écouter ce qu'il avait déjà prévu.
Mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le rassemblement des exilés, c'est purement juif aux juifs. C'est-à-dire, c'est les juifs qui veulent se réveiller ou pas à revenir sur leur terre.
Dans ce sens-là, il faut l'autorisation des nations.
Parce que tu as raison que pour pouvoir retrouver notre indépendance nationale, il fallait la permission des nations. Ben effectivement, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas pu créer notre pays tant que les nations ne nous ont pas dit oui. Après, pour ce qui est de toi et moi qui faisons l'alia, c'est notre problème personnel. Ok ? Donc, ça veut dire que Yaakov, ici, comprend qu'il va devoir maintenant parler le même langage que celui de Esav, le langage du monde. Et justement, il a un problème, Yaakov. Parce qu'il sent qu'il n'est pas légitime.
Et moi, j'ai toujours senti dans ce coin, parce qu'on fait on a fait le truc de Yaakov, tout le presse avec le rabbin Israël. Mm-hmm. Donc les questions, elles reviennent et le truc. Moi, j'ai toujours eu cette impression que Yaakov, il avait une angoisse de la manière dont il s'est conduit, lui, et par rapport à sa mère, etc., etc. Et donc il avait un peu il était un peu pas sûr de lui, quoi.
D'accord, tu as tout à fait raison. Maintenant, quel est le problème? Il a cette angoisse. Pourquoi? Alors on a l'habitude de dire parce que Esav il avait des mérites que lui n'avait pas. C'est quoi les mérites que Esav avait et qu'il n'avait pas? Alors justement, tout le monde dit qu'il vous avait, mais non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est vrai que Esav il a été très très fort en kibboud avaim.
Mais il a fait kibboud avaim en partant.
Mais voilà. Yaakov, le fait qu'il parte, c'est obéir à ses parents. Donc c'est kibboud avaim qu'il ne soit pas là. Mais Esav, lui, il avait le mérite d'être en Israël. Qu'on dise ce qu'on veut, il était là. Yaakov, lui, il n'était pas là.
Ça veut dire que Petra, c'était Israël.
Non, d'abord...
Seir, c'était Israël.
D'abord, dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, oui. Deuxièmement... il n'est pas tout de suite à Seir. D'abord, il est chez papa et maman.
Oui.
C'est-à-dire, donc, la yeshiva d'Eretz Israël de Esav, elle est là, quoi. Donc, si tu veux, Esav, il est là. Yaakov, il n'est pas là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut lui en tenir rigueur à Yaakov? Est-ce qu'il a des raisons de se sentir en dessous? Quand tu es dans une situation...
Il y a des complexes.
Est-ce que c'est légitime, ces complexes? Alors, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que quelqu'un qui ne peut pas faire une mitzvah ou la volonté de Dieu, il est en prison. Quelqu'un, on l'a mis en prison et on ne lui a pas amené de chauffard pour Rosh Hashanah. Est-ce qu'on peut lui dire c'est ta faute que tu n'as pas sonné du chauffard?
Non.
Vous allez chez l'eau. Donc, si Yaakov, il est chez Haran, enfin chez Lavan à Haran, parce qu'il doit se marier et parce qu'il doit fuir la colère de Esav, tant que ces deux éléments-là ne sont pas réalisés, c'est normal qu'il soit à Haran. C'est pas de sa faute. Donc on lui en tiendra pas rigueur à ce moment-là.
C'est lui.
Non, j'ai compris.
Lui, sa conscience, elle le perturbe.
Parce qu'il y a une raison à ça.
Non.
Il est coincé avec cette année supplémentaire. C'est que le truc qu'il a fait à son frère, d'aller chez Israël, qui se déguisait,
ouais,
etc.
Ouais.
Ça, le travail.
Ça, bien sûr que ça, le travail. Mais ça, il a aidé.
Il a retrouvé un peu d'abandon chez moi. Parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas une bonne impression
de.
Mais là, quand il a eu ce remords de conscience, là, je dis, c'est un type qui a fait une tchouva.
Alors, tout à fait, il a fait une tchouva, mais il a déjà commencé cette tchouva-là au moment où Léa, elle a pris la place de Rachel. Parce qu'au moment où Léa a pris la place de Rachel, nous dit le Midrash, que Yaakov, il était très énervé contre elle. Il lui a dit, mais je t'ai appelé à Rachel toute la nuit. Et toi, tu as dit oui. Et Léa lui répond, et alors, ton père, il t'a appelé Esav, et tu as dit oui.
Voilà.
Donc ça, il a déjà payé pour ça. Donc le problème ici, il est autre. Le problème, il est, comme il dit ici, Yaakov. Regardez ce que Yaakov dit.
Il est resté 7 ans de plus.
Il le dit, regarde. Vayetzav otam lemor, kotomerun la adoni le Esav. Voilà ce que vous direz à Esav quand vous le reverrez. Koamar avdecha Yaakov, voilà ce que ton serviteur Yaakov dit, im Lavan garti va echar ad ata. J'étais chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant.
Et pourquoi il se considère comme avdecha?
Oh, parce que pour l'instant, il n'est pas encore son alter ego.
C'est un truc de soumission.
Nahon, mais les juifs, lorsqu'ils sont venus voir les nations pour dire s'il te plaît, donnez-nous la terre d'Israël, il y a aussi cette dimension de soumission. Parce que quand tu es soumis aux nations, avant qu'ils t'aient libéré, tu es soumis aux nations.
Malheureusement, c'est dans toutes nos histoires.
Mais oui, tout à fait. Mais là, vous voyez que le problème de Yaakov, c'est qu'il dit va echar ad ata. J'ai tardé. C'est quoi j'ai tardé? C'est les fameux 6 ans après la naissance de Yosef où Dieu lui a dit tu pars, il est resté encore 6 ans pour faire du business. Vaïcha. Et là j'ai peur. J'ai peur que ces 6 ans-là.
Ils m'enlèvent les mérites.
Eh bien oui. Et que donc je ne sois plus légitime de retrouver ma place. Voilà la grande crainte de Yaakov. La crainte de Yaakov qui est Maaseravot Siman Navanim, bien évidemment, c'est pas l'exil en soi. Parce que lorsqu'on est en exil, comme tu l'as dit, Dieu nous a fait une promesse. Il nous a promis Ushmarani baderech hazot, Ushmarticha bechol asher telech. C'est-à-dire que Dieu a promis à Yaakov qu'il va aller le protéger, Bagalout. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit ici que Yaakov a très peur lorsqu'il entend Vayashuvu amalachim el Yaakov lemor banu alachicha velesav. Quand les malachim lui disent, les envoyés lui disent, mais ça, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. On dit, vayira Yaakov me'od vayetzerlo. Il a peur. Mais la question, c'est pourquoi tu as peur? Dieu t'a promis qu'il allait te protéger.
Nachon. C'est là qu'on ne comprend pas après ce qui est marqué. Et si, puisque la Kadosh Baruch Hu donne toutes les promesses. Et lui dit, si il me ramène à la maison de mon père, et s'il me donne un vêtement pour me vêtir.
C'était avant. Ça, c'est ce qu'il a dit dans la parasha de Vayetzé. Mais justement, comme Dieu lui a promis de le protéger, pourquoi est-ce que là, il est en stress?
Il a peur.
Parce que Akadosh Baruch Hu lui a promis de le protéger, Bagalout. L'homme, au moment où la galoute devait être, pas au moment où toi t'as décidé de rester.
Ouais, d'accord, ces 6 ans là.
Eh oui, eh oui. Ve'av gamzot, nous dit la Torah, biyotam be'eretz oyevehem, lo me'astim ve'lo ga'altim lechalotam la'aferet beriti itam. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Lorsque vous serez dans le pays de votre servitude, de vos ennemis, alors je vous protégerai. Lorsque vous serez, Rashi explique, lorsque vous devrez y être. À partir du moment où l'exil a pris fin, mais que vous, vous décidez de rester, le danger arrive.
Je n'ai pas suivi. Il est resté 6 ans de plus.
Oui.
Enfin, c'est ce moment-là.
Ce moment où il a fait des troupeaux.
Il a fait du business, c'est ça. Il a voulu avant de partir.
6 ans.
Oui, 7 ans, 7 ans. Des trucs avec les moutons.
C'est ça.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Et alors, moi, ce que je veux savoir un petit peu, parce que c'est un être très complexe, Jacob. Jacob, on va dire Jacob aussi.
Quel hébraïsant.
D'accord, Jacob.
Non, Jacob, t'as raison.
On va dire pour Jacob, il a raison. C'est un être complexe, il est soumis à beaucoup d'influences. Et il subit, hein, qui subit beaucoup de choses. Et là, je n'arrive pas à comprendre quel est le rôle de sa mère. Tu sais, les mères ont toujours un rôle très important, tu sais. Et beaucoup plus que peut-être que les pères. Et là, Rivka, elle lui a dit, fais ceci, à place des sabres. Ensuite, elle a dit, pas à Haran, parce que là-bas, tu seras protégé. Et puis également, on reconnaît cet épisode, elle envoie une servante pour dire à Jacob, et ça je me demande à quel moment elle envoie cette servante, pour dire à Jacob, c'est le moment de rentrer. Mm-hmm. Bon, alors, on ne sait pas, pourquoi elle lui dit ça, et ce moment, quel moment? C'est un moment important par rapport à quoi?
Le moment où Dvorah, la servante de Rivka, arrive, c'est justement après ses 6 ans.
Après ses 6 ans.
Voilà.
Donc finalement, elle a une influence importante.
Mais évidemment.
Alors, quelle est cette influence? Parce qu'il a toujours subi, d'accord, il subit.
Jusqu'à maintenant.
Mais même après, Shrem, etc., l'histoire de Shrem.
On va voir, deux secondes, on va trop vite.
Et puis, XRA, Yosef, et tout ce que tu voudras.
Ah, tu vas pas vite, t'es en besogne.
Non, mais qu'est-ce qu'il a subi dans sa vie, cet homme-là? Donc, je me demande, ce contrôle, un être complexe, c'est-à-dire qu'il est, il a une volonté, il a peut-être une personnalité, mais. Il est dépendant
qu'est-ce que,
de.
Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov?
Qu'est-ce
que ça veut dire Yaakov? C'est celui qui est Orkev.
Orkev.
Qui suit. Yaakov, c'est quelqu'un qui suit les événements.
Donc finalement, ça, ce que je veux dire par là, c'est que ça modifie, ça limite. Ce que tu dis.
Tout à fait.
Ce que tu dis.
Mais n'oublie pas que.
Et un peu comme s'il avait une influence importante. Non, il a peur.
N'oublie pas que Yaakov doit.
Il n'a pas de pensée stratégique. N'oublie... Il n'a pas de pensée. Je sais pas.
N'oublie pas que Yaakov, dans cette paracha, doit devenir Israël.
Oui, mais il ne le sait pas, lui, peut-être.
Il ne le sait pas. C'est ce qu'on va lui apprendre pendant toute la paracha.
On va lui mettre ça dans le crâne. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'élévation de sa part.
Il y a une constante chez Yaakov.
Vas-y.
C'est la peur.
Oui, c'est ça.
Il a peur du début à la fin.
Ça m'a toujours troublé. Et le rôle de sa mère, je n'arrive pas à comprendre.
Il a peur quand il est Yaakov. Quand il est Israël, il n'a plus peur. Maintenant, le rôle de sa mère, c'est de l'aider à passer de Yaakov à Israël. Ok ?
C'est pas facile. C'est un angoissé de.
Ouais.
Moi, je suis angoissé. J'ai peur tout le temps. C'est comme ça. Et je me console en me disant je suis le descendant de Yaakov. C'est tout.
En effet.
Excellent.
Donc, vous avez compris donc qu'à chaque fois qu'on part d'exil, eh bien, il y a entre le moment où l'exil se termine et le moment où la Géoula prend forme, il y a ce temps de latence qui est dangereux. Et c'est dans ce temps-là que Esav va venir et veut, fait mine de vouloir tuer Yaakov. Ok ? C'est à chaque fois pareil. À chaque fois qu'on est sorti d'exil avant d'arriver en terre d'Israël et donc en Géoula,
en
chemin, le danger de la Shoah, de la destruction, a plané sur nous. Avec Yaakov ici, c'est Esav. Avec un Israël qui sort, c'est Vayavo Amalek. Après la sortie de l'exil de Babylone, il y a eu Pourim. Et dans notre génération, pareil.
Chaque fois qu'on est en chemin, on reçoit.
D'accord. Et dans notre génération, il y a eu la Shoah, malheureusement.
C'est une situation qui n'est pas stable.
D'accord, exactement. Exactement. Donc finalement, Yaakov va, oui, rencontrer Esav.
Il va créer cette situation.
Il va rencontrer Esav, il n'a pas le choix.
On l'a créé.
Alors qu'il voulait aller au-devant des problèmes en envoyant des cadeaux à Esav pour le calmer, et donc ne pas le rencontrer, finalement Esav l'a devancé, et il va, oui, le rencontrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Eh bien, il va se préparer. Donc il n'est pas complètement inactif, mais il réagit à la situation. Il se prépare en trois étapes, on le sait. D'un côté, il fait cadeau, tfila et milchama. Et pour ça, il va diviser son camp en deux, si jamais un est frappé, l'autre. Et on connaît l'histoire, il reste le soir seul. Pourquoi seul ? On nous dit qu'il a retraversé le fleuve parce qu'il a été récupéré des parchim ktanim, des petites jarres. Là, maman, c'est chachouf.
Le coche où vous buvez le café ?
Non. C'est des fioles.
Oui, des fioles. C'est quoi pour Hanouka ?
Non. Il avait. Il s'en était servi quand. Lors du rêve, il avait. Lors de son songe avec les chaînes, les malachim, etc. Après, il avait fait un hôtel, mm-hmm. Il s'est servi de cette fiole-là pour pouvoir allumer, okay. Ou pouvoir. C'est ces fioles-là qu'il gardait.
Donc et alors
c'est précieux pour lui.
Ça vaut le coup de se mettre en danger ?
Peut-être que pour lui, oui.
Ça, c'est sûr. La preuve, c'est qu'il l'a fait. Mais moi, je te pose la question. Ça vaut le coup ?
Non. C'est-à-dire que plus tu es grand, et plus tu es attaché aux petites choses.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Mais parce que
c'est quoi ces petites choses, mon ami ?
Petites choses, ça fait le.
Pourquoi le rabbin qui est grand, il est encore aujourd'hui à Paris ? Pourquoi ?
Bonne question.
Je pose la question. Puisqu'il est évident que le rabbin n'est pas quelqu'un qui transgresse la Torah. Donc il est évident que le rabbin n'est pas là-bas par plaisir. Évident. Il est évident que le rabbin a une raison pour laquelle il est là-bas. Même si elle est fausse.
Parce qu'il est grand là-bas, il serait petit ici.
Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas à ce que tu dis. Parce que ça ferait passer les rabbins pour des gens petits. Petits qui en fait n'ont d'intérêt que leur chaise, que leur statut. Non, quoi, Bémet ? Non, c'est pas possible.
Je connais des grands rabbins.
Moi, je n'accepterai pas.
Ici, non,
c'est pas qu'ils croient pas.
Je connais plusieurs grands rabbins de France, des grands rabbins de qui ont postulé au titre de grands rabbins, mais qui étaient également grands rabbins dans certaines villes de France. J'en connais plusieurs, au moins peut-être deux ou trois, et qui ont fait cette démarche. L'un d'entre eux, il a fait cette démarche, mais il est revenu en France. Sinon, j'ai en tête un qui est là pour l'instant et qui.
Donc, se cherche. Donc, ils sont là.
Ouais. Mais bon, c'est compliqué dans leur tête.
Mais ça veut dire quoi, c'est compliqué ? Tu me dis qu'il y a des rabbins qui préfèrent rester en route de la reste pour continuer à recevoir du kavod et qui préfèrent ne pas venir en Israël ? Chas v'shalom. Chas v'shalom.
Ben oui.
Mazé.
En tous les cas, ce qu'on voit même de actuellement, c'est que le pachout, le simple juif qui est en France, pachout, il pense à faire l'aliyah, même s'il ne peut pas la faire, il y pense.
Tout à fait.
Des gens qui ont une situation stable, du pognon, de l'honneur, etc., eux, ils préfèrent rester là-bas.
Alors donc, moi je dis, j'ai pas envie de penser que c'est simplement parce qu'ils veulent garder leur kavod et leur honneur et ce que tu veux. Je pense qu'ils sont tiraillés parce que d'un côté, ils ont étudié la Kabbalah et la Chassidoute et ils savent qu'il y a bagalout, ce qu'on appelle nitzotzot akedusha shem betoch atuma, qu'il y a des étincelles de sainteté dans l'exil et qu'il faut les récupérer. Et c'est ça les pachim ktanim de Yaakov. Il ne peut pas laisser de côté les étincelles de sainteté de l'exil parce que sinon il faudra retourner les chercher de toute façon. Et le grand danger du tzadik, c'est de ne pas savoir quand ça y est, c'est plus l'heure.
C'est pas l'avis du Rav Kook.
De quoi ?
Les étincelles, il n'y a pas grand-chose comme étincelles. Sinon,
comment ça, pas grand-chose comme étincelles ?
C'est vrai qu'il reste une
étincelle. Il y a beaucoup d'étincelles. La question est de savoir, est-ce que tu as compris quand c'est plus l'heure ?
Mais c'est en train de s'éteindre.
Donc ça veut dire que, c'est ce que je suis en train de te dire, avant l'heure, c'est pas l'heure. Aller en galoute avant que ce soit le moment, ça ne sert à rien. rester en galoute après que ce soit terminé de récupérer les étincelles à récupérer, eh bien, c'est fini.
Mais peut-être qu'il y a eu des occasions avant qu'on a loupé.
Alors, pseudo. Mais là, il y a Yaakov, on voit qu'il s'est mis en danger en allant récupérer ses parchim ktanim. Il n'aurait pas dû y aller. Parce que ce que tu laisses en exil, ça a aussi une importance.
Alors, tu donnes, à ce moment-là, tu donnes encore la main à ceux qui restent en exil. Alors, je comprends très bien qu'il y en a qui restent pour récupérer ces trucs-là. Mais en attendant, ils sont en exil.
Ben, c'est pour ça que je te dis.
Ils sont pas en exil.
Il n'est pas toujours vrai de rester pour récupérer des étincelles. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le travail de récupération des étincelles est terminé, il ne faut plus rester. Et aujourd'hui, il est fini.
C'est
la conclusion du...
Ces étincelles qui sont là-bas, elles savent très bien qu'il y a un rave qui est là pour les récupérer. Elles restent là-bas.
Parce non, mais ça, c'est pas les étincelles. Ça, c'est Bnei Israël. Bnei Israël, ce ne sont pas des nitzotzot. Bnei Israël, c'est Kadosh. Mais Bnei Israël, eux, ils doivent venir ici, Nekouda. C'est la halakha. Les étincelles, c'est dévoiler la kedusha qu'il peut y avoir encore chez les goyim. Mais, je vous le dis, ça y est, c'est fini. On a fini le travail de récupérer les choses des goyim. Donc, rester encore là-bas.
Ils ont fait tchouva, les goyim, avec le pape Jean XXIII.
Ils ont commencé, hein. ils n'ont pas fini encore. Hein. Ils n'ont pas encore fini.
Mais ils sont sur le chemin. Ils ont démarré quelque chose. Avec le truc de Jean XXIII, je me rappelle, il y a 50 ans, il avait dit c'est pas nous qui avons tué.
C'est tellement long que ça va être fini encore.
C'est des non-juifs.
Tout à fait.
Qui ont peut-être une étincelle, quelque chose de particulier. Et peut-être c'est ça, finalement. Parce qu'on sait aujourd'hui, vous savez que le nombre de gens dans le monde qui ont une relation avec le judaïsme est énorme.
Tout à fait.
C'est fou, c'est des millions. Hein. Au Brésil, c'est des millions, des maranes, etc. Et des millions. Mais en France, c'est pareil. En France, il y a 400 000 juifs peut-être, mais il y a peut-être un million, un à deux millions de personnes qui ont des influences, des liens par je ne sais quel. Par exemple, Sarkozy, qui est catholique, il a un grand-père juif, par exemple. Sa femme, je ne sais plus comment s'appelle sa femme.
Carla Bruni.
Carla Bruni. Également, elle a un grand-père juif.
Tu veux dire, c'est fou. Elle a un grand-père juif.
Oui, pareil. Je veux dire, c'est inimaginable.
C'est vrai.
C'est du monde.
Tu as raison.
Qui pourrait peut-être un jour.
Il revient. Bekitso, donc on voit que Yaakov se met en danger à un moment où il n'aurait pas dû se mettre en danger. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Eh bien, là-bas, il va devoir faire face à la galoute. Mamash kacha. Yaakov, dans son affrontement avec le malach, il affronte quelqu'un qui, en fait, est son alter ego. Le malach, c'est qui ? C'est Sitno shel Esav. C'est la force spirituelle qui représente Esav. Donc Yaakov comprend très bien que là, s'il se bat avec lui, c'est qu'il est en train d'empiéter sur le domaine de Esav. Et donc, eh bien, il se bat avec le malach. Le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est quoi ?
C'est de le battre.
C'est-à-dire de comprendre que maintenant, il ne doit plus être en situation de soumission. Et il va le battre.
C'est un bon exemple pour citer ça actuel.
Évidemment. On a battu l'ange de Esav pendant la guerre d'indépendance. Naron. Ouais. Alors il est revenu nous donner un petit coucou pendant la guerre des six jours. On est redevenu Israël. Et effectivement, à la fin du combat, eh bien, le malach lui dit, tu seras Israël. Pas encore.
Oui, au futur.
Pas encore. Tu seras Israël. Bientôt.
Le rassemblement, il n'est pas encore...
C'est-à-dire que tu n'as pas encore terminé. Tu as bien commencé, mais tu n'as pas encore terminé.
Il n'y a pas le rove en Israël.
C'est pas qu'il n'y a pas le rove. Si, là, Yaakov, il est avec la majorité, il est avec toute sa famille. Mais il n'a pas encore celui qui va ancrer son identité d'Israël, qui va l'imprimer pour qu'elle ne bouge plus.
C'est Yosef.
Non, Yosef, il est là. Yosef, c'est celui qui nous fait sortir d'exil. Mais c'est Binyamin. Voilà. Binyamin, il n'y a pas encore. C'est
vrai ? Binyamin, il est en chemin ?
Il est là maintenant, dans l'arrivée en terre d'Israël.
Il est en Israël ?
Oui. Bah oui, puisque Rachel, elle va mourir à Bethléem. C'est Bethléem, c'est en Israël. Ok ? Donc voilà, une fois que l'histoire avec Yaakov et Esav est terminée, Yaakov comprend que c'est bon. Il peut rentrer en terre d'Israël. On lui a dit, tu vas être Israël. Tu n'y es pas encore. Mais tu vas être Israël. À partir de ce moment-là, hein, Makoré. À partir de ce moment-là, Rabotai, eh bien, il arrive en Israël. Et où est-ce qu'il va ?
Il n'est pas vraiment loin.
Hein ?
Il va d'abord...
Où il va ?
Il va à Shrem.
Il va à Shrem. Pourquoi va-t-il à Shrem ?
Pour récupérer des gens qui étaient depuis Abraham. Abraham avait donc... il avait converti. Il voulait les récupérer avant de rentrer.
Enfin, non, il ne veut pas les récupérer avec lui, parce que la preuve, c'est qu'il ne les récupère pas. Mais il va là-bas pour trouver un mari à Dina. Il va à Shrem, Dafka Shrem, parce que comme tu l'as très bien dit, Shrem, c'est la ville qui a été créée par les élèves d'Abraham. Et donc il se dit, si déjà compléter l'identité d'Israël, parce que vous comprenez que là maintenant mon identité elle est incomplète. Comprenez-moi bien, qu'est-ce qui se passe ? Qui aurait dû être Israël ? Qui aurait dû être Israël ?
Esav.
Yaakov et Esav. Yaakov et Esav ensemble auraient dû créer l'identité d'Israël.
Ce que tu nous as toujours dit.
Non. Esav ne l'a pas fait. Il a montré qu'il n'était pas, il ne voulait pas, il n'était pas au niveau. Ok. Yaakov a pris sur lui de le faire. Mais Yaakov, donc, maintenant a 12 fils et une fille. Il faut donc quelqu'un pour compléter la 13e tribu. Que Esav n'a pas pu compléter. Et donc Yaakov se dit, si déjà prendre quelqu'un de l'extérieur... Je vais prendre l'un des descendants des élèves d'Avraham. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas non plus au niveau. Mais lui, il va là-bas pour marier Dina.
Encore, il subit là.
Et bien là, ça ne marche pas. Et là, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une grande marloquette qui s'installe entre lui et ses fils. Parce que non, il ne faut pas oublier que là, maintenant, les enfants de Yaakov, ils sont là. Ils ne sont plus des bébés. Yosef est jeune. Yosef a 6 ans. Allez, peut-être 7 ans, parce que le voyage, machin. Mais les autres ? Attends.
Reuven, il
a... Ah, Reuven, c'est déjà un adulte, hein ?
Et c'est des mal là-bas.
Eh ouais.
Shimon et Lévi.
C'est pas des enfants de corps.
Shimon et Lévi. Il y en a un qu'on appelle dans le jargon Stallone, et l'autre on l'appelle Schwartzy. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Toi, tu crois Lévi, c'est un mec, il a des lunettes et il étudie la Torah. Mais c'est monsieur univers. Eh oui ! Maintenant, les amis, qu'est-ce qui se passe ? On connaît l'histoire. Dina va être violée par Shrem ben Hamor.
Oui.
Mach Hamor à Ben Adam. Comment est-ce que tu dois réagir à ça ? Ben, ça dépend. Ça dépend si celle qui a été violée, c'est ta fille ou c'est la princesse du royaume. On ne réagit pas pareil. Si il y a eu une guia, on a porté atteinte au niveau individuel personnel ou si on a porté atteinte aux institutions. Qui est Dina ? Est-ce que c'est la fille de Yaakov ou est-ce que c'est la princesse d'Israël ?
Si tu dis que Yaakov, c'est Israël.
Ça... T'as compris ? La marloquette, elle est là. Yaakov.
Donc, là, il est Israël ou il est Yaakov ?
Ben, il n'a pas encore été officiellement appelé Israël.
Donc, c'est...
Yaakov va réagir dans toute l'histoire de Dina comme un individu qui essaie de régler le problème entre individus.
Il n'est pas encore Israël.
Les fils de Yaakov pensent qu'ils sont déjà Israël parce qu'ils sont arrivés en Israël.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'eux, ils disent Nevala Asta Be Israël. Ce n'est pas Stam. Et donc, si ce que les gens d'Oshrem ont fait, c'est porter atteinte à Israël, alors qu'est-ce qu'on doit leur faire ? On doit tous les massacrer. C'est une déclaration de guerre de pays à pays. Donc, tu vois que la façon dont Yaakov réagit, c'est Yaakov. la façon dont les enfants de Yaakov réagissent, c'est Israël. Qui a raison?
Ben, étant donné qu'on s'en va vers la Géoula, c'est la malroute.
Donc c'est les enfants?
C'est eux, qui ont
raison. C'est les enfants qui ont raison. La preuve, c'est qu'à la fin de l'histoire, une fois que Shimon et Lévi ont tué tout le monde, Yaakov leur dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Je suis peu nombreux. Et donc, tous les autres vont nous attaquer. Encore une fois, il réagit en tant qu'individu. Un peu froussard.
C'est pour ça que je dis.
Une fois de plus, il suffit.
Ce qui caractérise Yaakov dans toute histoire, c'est qu'il a peur de. Depuis qu'il
est. Quand il est Yaakov. Et la réponse que Dieu lui fait, c'est que. Non. Altidag. Vas-y. Et la Torah nous dit. Vayichitat Elohim.
Mais tu ne crois pas que le. Excuse-moi. Ouais. Tu ne crois pas que le monde aurait changé de figure s'il avait donné Dina à son. À Esav.
Bien sûr.
Il aurait changé.
En bien. Bien sûr.
Voilà. Donc, ah non, mais
Chazal, il pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir donné à Esav.
Parce qu'il aurait,
elle aurait pu faire Tchouva, mais bien sûr. Bien sûr. Mais semble-t-il, Yaakov a pensé que Esav n'était pas encore capable.
C'est comme elle aurait pu changer tout aussi en se mariant avec Esav.
C'est dommage.
Yaakov.
Mais elle ne voulait pas.
Ben, elle ne voulait pas et Lavan non plus.
Il n'y aurait pas eu la chrétienté, il n'y aurait pas eu tous ces trucs-là. C'est...
Peut-être donc qu'il fallait. A posteriori, on réfléchit dans l'autre sens, on se dit à Kadosh Baruch Hu, il avait un plan. C'est vrai?
Oui, c'est sûr.
En tout cas, les amis, la situation elle est la suivante. À la fin de l'histoire, à Kadosh Baruch Hu, il dit Vayichitat Elohim al kol ha'amim asher sivotam velo radfu acharei bnei Yaakov. Yaakov dit pourquoi vous avez fait ça? Ils vont tous nous tuer. Et en fait, on se rend compte que maintenant qu'ils ont fait ça, ils ont relevé la tête. Et bien, la Torah nous dit que les autres nations. Tout d'un coup, ont eu peur d'eux et n'ont pas attaqué les Bnei Yaakov. Quant à Israël, il n'a pas honte de dire qui il est.
Mais c'est un gros problème chez nous.
En bataille, on ne peut plus avoir honte de qui on est.
Oui, mais il y a un gros problème.
C'est quoi?
C'est la démocratie. C'est que les gens votent, les gens ont des idées, les gens les expriment, ils ont des représentants. Qui ne sont pas toujours d'accord entre eux.
Mais ça va. Donc il faut travailler à les convaincre. Il faut travailler à les convaincre.
Quand j'étais petit, et même un peu plus grand, quand on faisait le kibouj, on fermait les fenêtres. Pas que les goyim, ils entendaient qu'on faisait le kibouj, pour ne pas dire qu'on est. C'était des juifs. C'était,
t'as vu
fermer les fenêtres, faire tout camoufler, on fait le kibouj. Et pas à haute voix. On le fait radil. Hein, on fait pas. Alors, tous ces trucs-là. Quand on est petit, ça.
Ben oui, bien sûr, mais bien sûr.
On grandit avec. C'est...
Comme je vous ai dit, j'ai été il y a quelques semaines avec les gens de Optical Center, c'était très bien. Et il y avait des goyim, la majorité c'est des goyim.
Et des arabes.
Et des arabes, des musulmans, des chrétiens, machin. Mais vous croyez quoi? Que je leur ai changé le discours? Que je leur ai vendu un truc édulcoré? Ils m'ont posé la question. Pourquoi, quand je les ai amenés devant le Saint-Sépulcre? Pourquoi tu rentres pas, ils m'ont dit?
Parce que ça ne me concerne pas.
Non, parce que je rentre dans des endroits qui ne me concernent pas. Je peux aller visiter un endroit qui est pas forcément
là,
à moi.
Là, c'est un endroit spécial, ça. C'est un truc. Quand tu rentres là-bas dedans, ils te font courber la tête pour rentrer dans les.
Je leur ai dit, j'ai pas cherché d'excuses. Je leur ai dit, mais parce que vous savez, dans l'évangile, il est marqué Ve'adavar Nia Bassar. Et la parole est devenue chair. C'est-à-dire que pour vous. Pour le christianisme, Jésus, eh bien, c'est Dieu qui a pris forme humaine. Pour moi, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et donc, je te parle même pas de la Trinité. La Trinité aussi, c'est de l'idolâtrie. Je dis donc, pour moi, tout endroit qui prône l'idolâtrie, c'est un endroit d'idolâtrie. Je mets pas les pieds dans un endroit d'idolâtrie. Je dis, vous savez, madame. Il y a fort à penser d'ailleurs que si Jésus il était là, il ne mettrait pas les pieds non plus ici. Pourquoi vous dites ça?
Oui.
Je dis, parce que Jésus, madame, c'était un juif. Il avait des grands problèmes dans sa conception du judaïsme, mais c'était un juif qui mangeait kasher, qui faisait shabbat. Donc si demain Jésus il revient, sachez que chez moi il viendra manger, mais pas chez vous.
J'ai dit ça.
Je dis, mais... Et tu vois qu'elle était complètement perturbée et les autres chrétiens, ils sont venus, qui étaient autour d'elle, machin, ils ont dit, mais...
Quand elle va rentrer, elle va demander au curé...
Elle a dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne mange pas cachère? Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas aussi? Elle dit, bah parce qu'il y a Paul qui est arrivé après, qui a annulé les mitzvot, et tout ça, machin. Mais si tu veux regarder les origines des choses, quand on est arrivé devant... qu'on a fait un tatspit, un point d'observation sur le mont du temple. Je leur ai expliqué que c'était le mont du temple. Et que l'esplanade des mosquées, c'est une invention. Qu'il y avait un Beth Amikdash ici. Un, deux. Et que partout, on appelait ça le mont du temple. Que les Arabes, ils appelaient ça le mont du temple. Les musulmans, on m'a dit, mais attendez.
Les Français, qui ont appelé
la... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Du dôme doré. Ils me montrent le dôme doré. Je dis, mais le dôme doré. D'abord, ce n'est pas une mosquée. C'est pas, tout le monde l'appelle la mosquée d'Omar, mais ce n'est pas une mosquée. Rien n'empêche que ce dôme doré qui est là pour le kavod de Dieu, alors les musulmans, ils buguent un peu, ils pensent que c'est là qu'il y a eu la Akeda de Ishmael, alors que c'est là qu'il y a eu la Akeda de Yitzhak. Mais il n'empêche qu'ils veulent quand même rendre hommage à Dieu. Bon, ils pensent que... Ok, il y a un petit bug. Mais le dôme a été créé pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il l'appelle Allah, mais Mazem Jané. Donc j'ai dit, il est à l'endroit du Beth Amikdash. Rien n'empêche de l'utiliser et pour le faire participer au Beth Amikdash. Il faut beaucoup d'or au Beth Amikdash. Pourquoi ne pas utiliser cet or-là? Et pour ce qui est de la mosquée de Al-Aqsa, j'aurais dit, la mosquée de Al-Aqsa, elle n'est pas dans le terrain de construction du Beth Amikdash. Elle est à côté. Donc rien n'empêche qu'elle reste.
Pas besoin de la détruire.
Pas besoin de la détruire. Elle pourra devenir la salle de Kiddush. Pour le Shabbat matin, qui douche pour tout le monde, goyim, juif, machin. Et le mec, il me regarde, il me dit, mais alors, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se battre. Mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit la vérité. On n'est pas obligé de se battre. Non, à partir du moment où Israël relève la tête, son message peut être entendu. Et c'est ça tout le propos de la paracha de Vaishlach, de faire passer Yaakov de Yaakov à Israël. C'est l'opachout. Et des fois, il y a des aliot veyeridot. Des fois, tu crois que tu es Israël et tout d'un coup, tu redescends Yaakov. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est Israël et qu'on doit atteindre l'étape d'après qui s'appelle Yeshurun, qui est l'étape de l'universel. Mais ça, on en parlera une autre fois.